Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Dominique Salgado, directeur général, comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, ce que beaucoup de gens appellent tout simplement le CAPVI dans notre univers. Bonjour M. Salgado.
Bonjour M. Beauregard, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Puis on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Souvent, les progrès de l'adaptation de la société aux situations à la vie des personnes en situation de handicap sont un peu lents. Mais là, cette fois-ci, on a de quoi de bien à rapporter à nos auditeurs.
Bien, tout à fait. Hein. Souvent, vous le dites très bien, il faut répéter hein, nos décideurs pour faire comprendre exactement la situation que vivent les personnes en situation de handicap au quotidien. L'an dernier, nous avions participé à l'étude des crédits budgétaires du gouvernement du Québec, alors qu'à l'époque, c'était la ministre André Laforêt, la ministre responsable de l'habitation, qui était en fait qui avait le mandat aussi de voir à la révision du fameux PAD, le programme d'adaptation de domicile.
Oui.
Et nous, ben, on a travaillé beaucoup avec les partis d'opposition, faire en sorte que la ministre recule et revienne sur une décision qu'elle avait comme laissé entendre en campagne électorale, disant que ça pourrait être révisé. Bref, la ministre, c'était...
Révisé, mais pas de la bonne manière. C'était ça qui était le nuage noir.
Exactement. Et là, ben, elle s'était commise à l'issue des crédits en disant que oui, ça va être grandement amélioré dans le montant et aussi dans les délais.
D'accord.
Et ce qu'on apprenait, écoutez, le 1er mai dernier, c'est que, et là, ben, ça a changé de chapeau hein, au niveau de la responsabilité ministérielle. On parle de, c'est Mme Duranceau, France-Hélène Duranceau, qui est la ministre responsable de l'habitation maintenant.
Oui.
Et on apprend que le gouvernement du Québec va bonifier, en fait, c'est déjà en marche, là, l'aide maximale pour un PAD, pour un programme d'adaptation de domicile, qui passe désormais de 16 à 50 000 $.
Ouh là là! Il y avait déjà un plafond qui était, je pense, 33 000, mais voilà, c'était pas donné à tout le monde. Ça dépendait des circonstances. Mais là, on parle de 50 000. Ça semble beaucoup, hein, mais adapter une maison, un domicile, c'est quand même beaucoup de travail. Et on sait que dans le domaine de la construction, le coût des matériaux, ainsi de suite, c'est pas simple.
C'est pas simple, effectivement. Il y a plusieurs coûts, effectivement. Puis, face à tout ça, il y a tout le contexte aussi, à un moment donné, de pénurie de main-d'œuvre, hein, qui
aussi.
Peuvent, certains travailleurs peuvent pas être disponibles, mais parfois dans des calendes grecques. Hein.
Ouais.
Et donc, c'est un gain qui est important. Donc, on parle d'une aide maximale de 33 000. Ce qui est intéressant aussi dans cette annonce-là, c'est que le côté du calcul du revenu du ménage disparaît complètement.
Ah, d'accord.
Alors, il y a le retrait de l'analyse des revenus. Ça aussi, on en est très heureux parce que vous savez, antérieurement, on interdisait même à deux personnes en situation de handicap de partager la même vie dans le même logement.
Oui, ce qu'on appelait la conjugalisation, là, ou dans une situation vraiment aberrante. Là. En fait, on disait à des gens en situation de handicap ne vivaient pas ensemble. Ou on disait à une personne en situation de handicap dont le conjoint ou la conjointe valide avait un meilleur revenu, ah ben, vous avez juste besoin de vous arrimer à l'autre.
Voilà, exact. Il y avait un peu des décisions qui nous laissaient vraiment le perplexe à ce niveau-là. Donc, ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Alors, le montant maximal à 50 000 par personne admissible, il peut y avoir même deux personnes sous le même toit qui peuvent bénéficier aussi d'un PAD, et encore là, sans égard aux revenus du ménage.
Parce qu'on peut penser aussi que leurs besoins peuvent être différents.
Oui,
aussi,
ben voilà.
Tout à fait.
Voilà. Il peut y avoir une personne avec un handicap visuel ou encore une personne qui a un handicap avec un handicap moteur.
Oui.
Donc, on s'entend qu'évidemment, les priorités, les besoins ne sont pas les mêmes.
Exact. Et il y a une question de simplification aussi, parce qu'il y avait des délais, et ça, évidemment, tant que la maison n'est pas adaptée, elle ne l'est pas. Puis, il y a une volonté, je pense, de voir à ce que la bureaucratie soit moins lourde.
Bien, ça aussi, les délais de traitement sont grandement améliorés. Là, on parle de 47 mois antérieurement.
Oh, c'est 4 ans,
ça. On parle du cadre normatif de 2018, c'était 47 mois. Et maintenant, on passe à 18 mois de traitement. Et ça, ça englobe évidemment les rencontres avec le propriétaire, rencontres avec l'ergothérapeute et tout le reste. Là. Donc, il y a quand même un côté administratif qui est important. Et le calcul de l'aide financière peut être révisé en fonction du nouveau mandat de l'aide financière maximale là, pour toute demande, dont le certificat d'admissibilité a été délivré entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.
Donc les demandes qui sont déjà dans le collimateur.
Voilà. Mais avant le 1er avril, ben là, c'est le traitement des dossiers là, qui va se poursuivre selon les normes de 2018.
D'accord.
Donc ça, c'est important de le savoir. Évidemment, ça change la vie aussi. Hein, un PAD pour bien des personnes, ça favorise aussi un maintien à domicile pour améliorer l'accessibilité. C'est aussi une preuve, je pense, on peut le dire, que le gouvernement agit concrètement pour améliorer les conditions de logement, les conditions de vie de toute personne en situation de handicap. Puis ça, ben, je pense qu'on peut on peut s'en réjouir. Et ça amène aussi, ça va favoriser, veut pas, une plus grande participation sociale et le maintien aussi à domicile des personnes handicapées. Ben, aussi, une autre personne handicapée peut en visiter une autre.
Oui, alors, tout à fait. Oui.
La question de visitabilité là, qui est très, très, très importante à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est un grand pas là, de plus pour le virage des soins à domicile. Nous en sommes très heureux. Le gouvernement souhaite que les personnes en situation de handicap et les personnes âgées demeurent le plus longtemps possible à leur domicile. Je pense qu'on prend les bonnes mesures à ce moment-ci pour y aller de l'avant.
Et moi, je vais vous dire c'est peut-être et je ne dis pas ça méchamment, mais je pense que du côté du gouvernement aussi, ils se disent, ben si on n'aide plus de gens à adapter leur maison, et ça crée une demande dans le domaine de la rénovation, de la construction, des emplois, ainsi de suite. Là. Ces subventions-là vont se retrouver immédiatement dans la courroie économique et vont créer des emplois, vont créer des dépenses immédiates et vont à des gens qui vont repayer des impôts. Alors, c'est pas de l'argent qui se perd, ça, dans le système.
Non, vous avez parfaitement raison, parce que du côté de la revente des maisons au Québec, et même, j'oserais dire, à l'ensemble du Canada, selon les dernières statistiques, la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, on dit que le marché de la revente est plus bénéfique actuellement que la maison neuve.
Oui.
Donc, effectivement, ça fait rouler l'économie à ce niveau-là. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la Ville de Montréal a son propre programme d'adaptation de domicile.
C'est vrai. Hein,
pour les personnes handicapées qui vivent sur son territoire. Alors, les critères applicables, les options offertes peuvent parfois différer du programme de la SHQ. Ici, à Québec, oui, il y a une entente de partenariat entre la Ville de Québec et la SHQ. Mais ça se ressemble quand même avec ce que Montréal offre sur son territoire.
Et ces programmes-là ne sont pas multinationalement exclusifs. Est-ce qu'on peut les cumuler?
Vous voulez dire?
Ben, vous parlez de si la Ville de Montréal a un programme qui lui est propre. Est-ce que, ou ainsi de suite, est-ce que si on participe à un programme, on s'exclut de l'autre, ou c'est simplement une autre façon de rentrer au même endroit?
Bien, en fait, si vous parlez de la personne handicapée
oui.
Qui veut être admissible à ce programme, bien, c'est certain que si elle touche déjà une aide financière, exemple, du régime d'assurance de la Société de l'assurance automobile du Québec, ou encore de la Commission de santé et sécurité au travail, la CSST, bien, cette personne-là ne pourra pas bénéficier aussi du PAD.
Ah, d'accord.
Ça, c'est important aussi de bien comprendre qu'il n'y aura pas de doublons là, dans les aides financières.
Oui. Ben, c'est ce que je voulais clarifier, parce que des fois, il faut comprendre que il faut pas. Le système ne permet pas, comme vous dites, des doublons là où on multiplie les aides. Mais ce qui compte, c'est que ça touche le but. J'ai vu également un autre acronyme. À part du PAD, il y a le PEA.
Oui.
Qui est une aide peut-être plus institutionnelle?
Oui, bien, le PEA, c'est le programme aux petits établissements accessibles,
oui.
Qui contribue aussi là, à l'amélioration des conditions de vie, mais là, on parle d'établissements au sens très large, là. Par exemple, si jamais il y a un site public historique qui ne se conforme pas, ben, il y aura possibilité d'obtenir une aide financière pour le rendre accessible.
Donc, d'accord. C'est de ça dont il s'agit.
Ça, évidemment, ça dépend du type, évidemment. Il y a des choses qui sont inaccessibles et qu'elles vont demeurer, malheureusement, en raison du contexte architectural. Là.
Ça aussi.
Et surtout dans le Vieux-Québec, on le voit assez souvent.
On voit à quel point l'accessibilité est un concept plus récent. Quand on visite de vieilles pierres. Ben, Monsieur Salgado, merci beaucoup d'avoir été là pour nous en parler. Il s'agit d'une bonne nouvelle.
Un grand plaisir. Merci, Monsieur Beauregard.
Merci. Après la pause, on parle de logement social encore.